Le grand jury, RTL, Le Figaro, LCI. Invité aujourd'hui, Guillaume Pépi, président du directoire de la SNCF. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Bonjour et bienvenue dans ce grand jury RTL Le Figaro LCI. Et alors que des millions de Français vont prendre le train à l'occasion des fêtes de Noël, notre invité est en effet Guillaume Pépi. Bonjour.
Bonjour.
Patron de la SNCF, plus précisément donc président du directoire de l'entreprise. Énormément de questions à vous poser. Vous êtes rare dans les grandes émissions. On vous remercie d'être avec nous ce matin pour vous interroger avec moi. Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Et Benoît Galeret, tout à l'heure, avant la fin de l'émission, Guillaume Pépi nous rejoindra pour nous dire quels sont les questions alors de ceux qui nous regardent et nous écoutent depuis depuis qu'on vient de commencer. Benoît Galeret, comment ça marche? Bonjour à vous.
Bonjour, la recette, c'est la même, toujours. Hashtag le grand jury, vous me posez vos questions sur Twitter, les portiques de sécurité, la hausse de tarifs, tout ce qui vous travaille, posez, et puis je vous retrouverai en fin d'émission pour débriefer tout cela ensemble.
Pour débriefer, merci beaucoup Benoît, à tout à l'heure. Guillaume Pépi, gros rush dans les gares, on l'a beaucoup entendu sur RTL et sur LCI. Première question qu'on se pose évidemment, est-ce que le réseau est bien sécurisé? Est-ce qu'on peut se sentir en sécurité quand on va prendre le train?
Alors aujourd'hui c'est un jour d'abord très spécial, c'est les départs en vacances de Noël, il y a beaucoup de joie, il y a... la fête commence déjà dans les gares. Moi j'étais hier à la gare de Lyon, c'est vrai qu'il y avait une énorme...
Et ce matin à la gare du Nord.
Oui, à la gare de Lyon hier pour voir comment ça se passait, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros incidents. À la gare du Nord ce matin... parce que ce matin, on a démarré donc la mise en service des portiques. Et là, je voudrais vous dire, moi, mes convictions sur ce sujet-là, qui est un sujet qui intéresse tout le monde, parce que Charlie, puis ensuite l'attentat raté contre le Thalys, et puis le 13 novembre, ça a beaucoup marqué les 4 millions de voyageurs qui sont toujours dans les gares et les 150 000 cheminots. Et moi, ce que je constate, c'est que le rapport des voyageurs à la sûreté a changé. Et nous, la SNCF, on a changé aussi. Moi, je ne crois pas à une seule solution miracle. Je crois qu'il faut une sorte de filet de sécurité, et peut-être même trois filets de sécurité. D'abord, de la présence humaine. Il y a la présence des militaires, il y a la présence des cheminots. On est 3500 cheminots à ne faire que de la sécurité et leurs pouvoirs viennent d'être renforcés.
Là, vous parlez des agents de
la SNCF, absolument.
Qui sont armés, d'ailleurs, depuis longtemps.
Et qui vont pouvoir, en civil, faire des patrouilles dans les trains, donc des patrouilles armées dans les trains. En anglais, c'est un mot un peu que tout le monde apprend à connaître, des train marshals, donc les marshals des trains. Ça, c'est la première chose, c'est la présence humaine.
On y reviendra tout à l'heure sur
d'accord.
Les,
la deuxième chose, c'est les nouvelles technologies. On a 31 000 caméras à la SNCF dans les gares et dans les trains, et on sait maintenant faire de la vidéo patrouille, c'est-à-dire suivre un certain nombre de personnes dont le comportement paraît un petit peu bizarre, pour savoir si il y a lieu de s'inquiéter ou pas lieu de s'inquiéter. Et puis il y a les portiques, et puis il y a une machine aussi, que nous allons acheter, toute nouvelle, je vous l'annonce. Alors elle porte elle aussi un nom anglais, c'est une sorte de machine renifleuse pour les colis suspects. Ça s'appelle Itemizer, c'est-à-dire machine à analyser les objets. Et cette machine-là, elle peut aller sur un colis suspect pour regarder si ce colis suspect, c'est plutôt des vieux vêtements ou plutôt quelque chose qui inquiète.
Donc vous la mettez en action lorsque un colis suspect est repéré, par exemple par une caméra avec un système de reconnaissance automatique d'un bagage abandonné, et vous allez poser cette machine sur l'objet, c'est ça?
Oui, on va en acheter plusieurs centaines cette année. Cette machine est en cours d'homologation, ça va se faire dans les premiers
prochains jours. Elle est construite par qui d'ailleurs? Par une entreprise française?
La Joker. Joker, pardon, Elisabeth Martichoux, Joker. Simplement, il faut avoir les choses en tête. Il y a aujourd'hui, chaque mois, 300 alertes aux colis suspects dans les gares. Ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de voyageurs et de Français qui ne font pas assez attention à leurs bagages. Et j'en profite pour lancer un appel très concret. À chaque fois qu'il y a un objet abandonné dans une gare, aujourd'hui, on suppose que c'est un objet dangereux. Et par conséquent, on a cette machine-là. Mais vous voyez bien que ça met les trains en retard. 50 000 minutes de retard pendant le mois de novembre. Donc, j'ai parlé des nouvelles technologies, mais je veux te dire aussi le troisième filet de sécurité d'un mot. Le troisième filet de sécurité, c'est vous, c'est moi, c'est les 150 000 cheminots. On a tous des yeux et des oreilles. On a bien vu que dans l'attentat raté du Thalys, c'est grâce à certains passagers qui ont tout de suite compris qu'il se passait quelque chose de bizarre. Ils ont été héroïques. Mais aujourd'hui, il y a un numéro d'alerte nationale qui est le 3117. tout le monde peut l'utiliser. Et depuis quelques jours, il y a même un numéro de SMS qui est le 3117.
Oui, parce 7. Que vous aviez fait l'analyse, évidemment, que téléphoner au moment où on fait face à un danger, c'est compliqué, donc c'est un SMS. Vous avez déjà eu des SMS, là, c'est quoi, depuis 8 jours
Il y en a plusieurs dizaines par jour, et ça permet de savoir. Oui. Vous savez, nous, toute information nous intéresse. Quelqu'un qui voit quelque chose de suspect, par exemple, le long des voies, un objet qui paraît pas habituel, quelqu'un qui se dit, tiens, cette personne-là est allée 4 fois dans tel endroit et ça me paraît bizarre, eh bien, le 3117 ou le 31177, c'est une manière pour tout le monde de contribuer à la sécurité.
31177, c'est pour le SMS.
Vous voyez bien, c'est un plan qui est carré.
Et quand on alerte...
On va revenir dans le détail.
Oui, quand on alerte via SMS ou par ce numéro de téléphone et qu'on est dans un train, l'alerte, elle est transmise au personnel qui est dans le train qui va aller vérifier ce qui se passe.
Il y a un central derrière ce numéro 3117. Ce central, c'est un petit peu comme quand vous appelez le SAMU. Il analyse l'appel, il essaye de comprendre ce qui se passe et lorsqu'il a le moindre doute, il transmet ça ou à la police, quand la police est la plus proche, ou bien aux cheminots de la surveillance générale, quand ils sont le plus proche.
Une question Christophe sur les portiques de sécurité que vous avez notamment installées depuis ce matin sur le Thalys, Gare du Nord. Est-ce que c'est uniquement la communication? Si je vous pose la question, c'est parce qu'on apprend que de l'autre côté, par exemple en Allemagne ou aux Pays-Bas, ce n'est pas une mesure souhaitée par les autorités. Et donc, en fait, les trains vont être contrôlés que dans un sens, dans le sens Paris-étranger. Donc, à quoi ça sert?
C'est pas de la com', hein. C'est une décision qui a été prise par le gouvernement. Moi, j'ai fait un rapport sur la question à Ségolène Royal. Il y a eu une réunion de ministres. Le Premier ministre a tranché sur le Thalys.
Ségolène Royal, qui est votre ministre de tutelle.
Il y a eu une réunion là-dessus et ça a été tranché. Pourquoi ? Parce que nous pensons que, parce que la France est pionnière sur le Thalys, les autres pays vont eux-mêmes y réfléchir et sans doute prendre la même décision.
En Allemagne, c'est pas parti. Hein, comme
mais
ça.
Encore une fois, vous l'avez vu. Ouais. Les portiques, c'est pas la panacée. Je le redis, aujourd'hui, à la SNCF, on a l'obsession de la sûreté, c'est-à-dire rendre les trains et les gares plus sûrs. Et pour ça, il y a vraiment 3 filets de sécurité. La présence humaine, les nouvelles technologies et la vigilance.
Mais par exemple, sur l'Eurostar, on est habitué depuis des années, sans doute plus de 10 ans, à ce qu'il y ait un contrôle, notamment en portique, à Paris et à Londres. Pourquoi est-ce que sur les autres lignes, sur le Bruxelles, sur le Cologne, sur l'Amsterdam, on n'a pas le même niveau de sécurité?
Ce que je vous dis, je pense que c'est très clair. On démarre aujourd'hui, à Paris et à Lille, sur le Thalys. Et par parenthèse, la SNCF a fait vraiment FISA, hein. En quelques semaines entre la décision et l'installation. Et comme ça a été dit par la ministre il y a quelques jours, on va regarder comment ça se passe. On va adapter, on va s'adapter, on va régler les dispositifs.
Et on espère que les autres feront comme nous.
Et on pense que les autres feront comme nous. Ensuite, il faudra prendre sans doute d'autres décisions. Mais encore une fois, il ne faut pas préjuger des résultats. La France, là-dessus, est pionnière.
Et est-ce qu'on peut généraliser l'utilisation des portiques sur l'ensemble du réseau? Est-ce que c'est possible, par exemple, sur les TGV français, voire sur l'ensemble des réseaux régionaux? Il y a trop de voyageurs et donc on perdrait trop de
temps.
Alors,
à ce titre, Ségolène Royal l'a dit clairement en testant. Mmh. Elle a dit, mais je voudrais que ce soit dans toutes les gares TGV. Il y en a combien? 3000? Enfin, beaucoup. Les TER et même les trains de banlieue, a-t-elle dit.
La décision qu'a prise le gouvernement, là encore, elle est très claire. Et j'étais avec la ministre il y a quelques jours à la Gare du Nord. Il n'y a pas que le TGV. Il n'y a pas que les trains internationaux. Il y a aussi tous les autres trains, voire les RER, voire les métros, voire les bus.
Les TER, c'est une promesse de certains présidents élus de région.
À l'heure actuelle, la décision n'est pas encore prise. Donnons-nous là-dessus le temps de vraiment expérimenter et de faire le retour.
Est-ce que ça vous paraît envisageable ou, compte tenu du flux de voyageurs, vous pouvez dire dès aujourd'hui, non, il n'y aura jamais des portiques à l'entrée de toutes les gares?
Je ne dirais jamais ça. Je dis, aujourd'hui, la sûreté, c'est notre priorité absolue. Mm. C'est une combinaison de plusieurs mesures à la fois. C'est aussi la vigilance des voyageurs. Et là-dessus, chaque jour, on va apprendre des choses.
Mais Guillaume Pépi, il y en a beaucoup qui jugent ça totalement irréaliste. 2 500 000 euros par quai par an, c'est le coût du portique aujourd'hui. Vous avez, je crois, déjà débloqué par de redéploiement 400 ou 500 millions pour les mesures de sûreté. Équiper toutes les gares, c'est irréaliste d'une part, et d'autre part, comme ça a été dit d'ailleurs beaucoup dans les débats sur les régionales, mettre ça dans les trains de banlieue, ça n'est pas non plus, ça n'est pas réaliste.
Alors c'est important de parler du coût. Chaque année, la SNCF dépense à peu près 500 millions d'euros pour la sûreté. C'est normal, c'est un investissement. Simplement, c'est vrai que les attentats nous ont aussi coûté de l'argent. Et là-dessus, je veux vous donner une indication. Hein. On vient de faire le point sur le budget de l'année 2015. Sans doute, les attentats nous ont fait perdre de l'ordre de 50 à 100 millions d'euros parce que, on le sait, beaucoup de touristes étrangers ne sont pas venus en France.
Vous avez la proportion de...
La première semaine, ça a été vraiment un choc. Hein. C'est la première semaine, 30-40% de touristes étrangers en moins. Aujourd'hui, ça se redresse. Mais pour l'année prochaine, là encore, je vous l'annonce, on a fait un budget qui est ambitieux à la SNCF, hein, presque 2% de croissance. Mais nous avons estimé le risque sur les trafics, c'est-à-dire un impact, on va dire, structurel sur les attentats, qui pourrait être de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros. Vous savez, Elisabeth
Martin, c'est ce que vous avez mis dans le budget 2016.
Non, on ne l'a pas mis, justement. Le monde, je voudrais le dire avec force, à la SNCF, le monde a changé depuis Charlie, l'attentat sur le Thalys et la journée du 13 novembre. La France a changé, les cheminots ont changé, ils sont encore plus vigilants. Et puis moi, j'observe que dans les gares, il y a de temps en temps, il n'y a pas de peur, mais il y a de la vigilance.
Mais ça, on va y revenir sur les comportements, vous avez raison.
Il ne faut pas avoir peur, il faut simplement tout faire ce qui est possible.
Est-ce qu'on va changer notre attitude par rapport au train ? On va y revenir, mais sur ma question...
Oui, je crois qu'on va la changer.
Mais sur la question du réalisme d'équiper toutes les gares, votre ministre dit, elle voudrait partout... Bon, voilà, est-ce que d'abord, c'est pas un principe de précaution qui va trop loin ? Et est-ce que c'est réaliste budgétairement ? Qu'est-ce que dit le président de la SNCF ?
Là-dessus, je vous ai répondu clairement parce que je suis honnête. C'est le premier jour, la France est pionnière, on va voir les résultats.
Moi, j'ai une question sur le coût de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on sera, comme dans le secteur aérien, obligé d'instaurer une taxe de sûreté qui se rajouterait, par exemple, au billet de train ? Ça avait été une proposition, je crois, un amendement qui n'a pas été retenu pour l'instant dans le projet de sécurité dans les transports. Est-ce que vous êtes pour une taxe liée à la sécurité sur les billets de train ?
Alors, le Parlement, là-dessus, a demandé à y voir clair. Parce que vous le disiez, Elisabeth Martichou, potentiellement, ça peut coûter très cher. Il faut essayer de faire un peu le devis de ce que ça peut coûter et de voir les sources de financement. Mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, les fameux 500 millions que la SNCF dépense chaque année sur la sûreté, ils sont inclus dans notre budget. Et profondément, je pense que c'est un investissement.
Mais ça me paraît aberrant de demander 50 centimes ou 1 euro par billet de train quand on voyage pour pouvoir financer ces mesures ?
Ça se fait dans l'aérien.
C'est pour ça.
Vous avez vu qu'au Parlement, certains parlementaires, Gilles Savary, la considère comme inéluctable. Il a demandé là-dessus un rapport. Je pense qu'il faut attendre quelques semaines pour qu'on y voit clair.
Et pour être complet, est-ce que vous dites 500 millions, mais est-ce que ça va se répercuter sur le prix du Thalys, l'équipement des portiques ? Les prix
non, et j'en profite, puisque vous aviez l'air de poser cette question. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, d'augmentation des tarifs de la SNCF prévue pour 2016.
Et autre question très concrète sur le Thalys. Il y a un colis suspect, l'embarquement des passagers est ralenti. Est-ce que le train attend ?
Alors, je l'ai vu ce matin, il se trouve que quelques personnes sont venues un peu à la dernière minute, alors qu'on prévient qu'il faut venir dans le Thalys une vingtaine de minutes à l'avance. On les a prises quand même, les contrôles ont été rapides, le train est parti avec 3-4 minutes de retard. Mais vous savez, ce qui peut le plus retarder les trains, ce sont les alertes aux colis suspects, les 300 alertes aux colis suspects chaque mois, qui à chaque fois interrompent le trafic pendant des dizaines et des dizaines de minutes.
Quel pourcentage d'alertes réelles, fondées ?
Zéro.
Zéro pour l'instant.
Heureusement.
On parlait d'augmentation, Christophe Jacubizine, on a bien compris nous avez dit à l'instant. Pas d'augmentation prévue pour l'instant. Ça veut dire que vous n'avez pas l'arbitrage ministériel, mais qu'il y en aura une, ou que vous plaidez pour qu'il n'y en ait pas
et non, que je c'est vous ai plutôt dit, le sens la décision n'est de... pas encore prise.
On parle de l'augmentation tarifaire.
On a parlé beaucoup aux sécurités. Je vais en profiter pour dire un mot. En ce moment, la crise est rude, en France comme ailleurs. Hein. Pouvoir d'achat, chômage, anxiété. C'est vrai que les Français, eux-mêmes, trouvent que le train est cher, comme ils trouvent que les restaurants sont chers, comme ils trouvent que les téléphones portables sont chers. Et donc, ce que nous voulons à la SNCF, parce que nous sommes une entreprise publique, c'est que la SNCF reste une entreprise ouverte à tous.
Donc vous ne demandez pas d'augmentation ?
Vous êtes en train de réviser votre copie, là, parce que vous avez demandé l'augmentation.
Ce que nous faisons, c'est que nous multiplions les petits prix. Je vous annonce, là, que dans les tout prochains jours, il va y avoir deux nouveautés très importantes. Le TGV à coût très bas, qui s'appelle le Ouigo, va être doublé pendant l'année 2016.
Vous voulez
par
dire les destinations ?
Les destinations, on va faire région parisienne vers Nantes, Rennes. On va aussi introduire des trains intercités économiques qui vont vers Nantes aussi et vers Strasbourg, et tout ça entre 15 et 35 euros. On a une obsession à la SNCF, c'est que dans la période actuelle, il faut aider les Français à voyager moins cher.
Donc c'est une annonce aujourd'hui du président de la SNCF, vous ne demandez pas d'augmentation des billets de train
général.
Sur l'année 2016.
Je ne suis pas sûr que vous m'ayez bien entendu ou bien écouté.
Je vous repose la question.
Je vous ai dit, à la question d'Elisabeth Martichoux qui disait « Est-ce qu'il y a une augmentation prévue ?» Je vous dis, la décision n'est pas encore.
Mais vous avez demandé quoi à la
Quoi, ça ne joue pas à la télévision.
L'année dernière, c'était 2,6% d'augmentation, c'est ça ? Est-ce que ce sera plus ou est-ce que ce sera moins ?
Le prix du train, il faut le savoir, le prix du train, chaque année, il évolue moins que l'inflation. Moins que l'inflation. Tout simplement, parce qu'on multiplie les petits prix pour permettre aux Français de voyager plus. Vous savez, aujourd'hui, dans Ouigo, ça permet à des enfants de voyager à 5 euros, quel que soit le trajet, et même à la dernière minute. Qui dit mieux ? 5 euros pour faire région parisienne vers Montpellier, région parisienne vers Marseille.
Mais cette multiplication des tarifs permet aussi d'entretenir un certain flou sur l'augmentation des prix, parce que plus personne ne s'y retrouve, pour faire court.
Je vais vous dire les choses. Les Français, on les interroge. Moi, je rencontre beaucoup les clients. Je les rencontre dans les trains. Ils m'interpellent dans les trains, beaucoup. Ils trouvent effectivement que parfois, c'est un peu compliqué. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est pouvoir trouver un prix qui leur convienne. Et ce que nous avons fait, et ce que nous allons continuer à faire, c'est de multiplier les petits prix. Je vous donne un chiffre. Mon objectif, comme président de la SNCF, c'est qu'en 2017, il y ait 30% de tout petit prix sur le TGV. C'est-à-dire qu'un billet sur trois soit vendu à tout petit prix.
Ce que vous nous dites,
c'est tout petit prix, c'est aux alentours de 35-40 euros.
Allez, encore un petit mot là-dessus, parce que je voudrais être sûr que ceux qui nous écoutent et nous entendent aient bien compris, et Benoît Galran nous le dira tout à l'heure, mais ce n'est pas complètement sûr. Vous allez multiplier les petits prix, donc plus d'offres à bas prix. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas augmenter par ailleurs d'autres prix, comme c'est généralement la règle, pour arriver à une augmentation globale. Votre préconisation auprès de Ségolène Royal, quelle était-elle ?
Attendez, je m'excuse, Elisabeth Martichoux, vous n'êtes pas Ségolène Royal, et donc nous sommes pas ici en train de régler ce sujet-là. Ce que je vous dis, c'est que les prix à la SNCF sont stables. Les prix à la SNCF sont stables parce que nous multiplions les petits prix. Et encore une fois, dans la période de crise qui est la période actuelle, c'est indispensable que nous soyons capables de faire voyager tout le monde.
On vous sent très prudent quand même, que ce soit pour les raisons sur les sujets de sécurité, l'éventuelle multiplication des portiques, ou sur l'augmentation des prix. En fait, vous êtes très contrôlé par le gouvernement.
Non, je suis très honnête. Et je déteste les vérités toutes noires, toutes blanches qu'on assène, y compris chez vous. J'essaye, parce que c'est un moment sérieux, j'essaye d'aller au fond des choses, j'essaye de partager avec ceux qui nous écoutent la situation réelle aujourd'hui du train en France.
Alors il y a quelque chose, vous avez une autre idée pour que ça coûte moins cher aux gens de voyager. Vous leur avez proposé, lorsqu'ils achetaient un billet de train, de mettre leur logement à disposition sur le site Airbnb, d'échange de logements entre particuliers. Et alors là, vous êtes pris une volée de bois vert des hôteliers qui ont dénoncé un accord entre une entreprise déficitaire subventionnée par l'État et une multinationale destructrice d'emplois qui ne respecte pas les règles fiscales françaises. Qu'est-ce qui vous a pris,
voilà
Guillaume
des
Pépi,
voilà des hôteliers qui font dans la subtilité, l'honnêteté intellectuelle. Bon, il se trouve que c'était pas un partenariat, c'est une opération de promotion. Sans doute, on a mal communiqué, on s'est mal expliqué, on a retiré la mesure. On s'est rencontré avec les hôteliers et on va continuer à travailler avec tous les hôteliers pour faciliter.
C'était une mauvaise idée, au fond.
Non, je pense qu'on s'est mal expliqué.
Je voudrais revenir sur la question de sécurité parce que c'est une question très sensible. Vous avez donc un corps d'agents de sûreté qui s'appelle la SUGE. Sauf erreur, il n'y a jamais eu de bavure d'ailleurs dans cet ensemble d'agents cheminots. Ce sont des cheminots, ils sont armés encore une fois. Ils vont avoir des nouvelles missions, après la proposition de loi Savary, de fouiller. Et de palper, de fouiller les bagages et de faire des palpations. Or, c'est une mission particulière. Si en face, il y a un voyageur qui est récalcitrant, qui refuse, ça peut amener à des situations extrêmement tendues. Est-ce qu'ils sont formés ? Est-ce que vous allez mettre tout de suite en place d'ailleurs ce dispositif ? Ou est-ce que vous allez les former à ces nouvelles configurations, ces nouvelles situations qui sont potentiellement très anxiogènes et très inquiétantes ?
Oui, on a 3500 cheminots qui ne font que de la sûreté. Ils sont formés, ils sont entraînés au tir, puisqu'ils sont armés. Et la loi qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale va leur donner deux pouvoirs nouveaux. Premièrement, d'effectuer des fouilles et des palpations. Mais ça ne se fera pas sans contrôle, puisque la police et la gendarmerie surveilleront ces opérations quand c'est nécessaire. Et d'autre part,
Ça veut dire qu'il y aura toujours un policier.
Quand c'est nécessaire, c'est-à-dire que la police ou la gendarmerie pourra venir voir comment ces palpations et ces fouilles sont effectuées. Et puis nous allons pouvoir demander des enquêtes administratives pour bien vérifier que 100% de ces personnels sont des personnes sur lesquelles on peut compter. Donc vous voyez que la loi a été assez équilibrée. Et juste une deuxième chose, la loi permet, et ça c'est une nouveauté très importante que j'ai demandée, qu'il y ait la possibilité que ces agents de la surveillance générale, agents SNCF, patrouillent en civil, armés, dans les trains.
En civil et armés.
Ça n'était pas possible avant, ça le sera désormais, et c'est très important, parce que ça permet, dans les trains, d'assurer une présence discrète, qui sera très utile et rassurante.
C'est pas seulement le risque terroriste, on imagine, qui est visé par ces équipes. Ils sont aussi là pour s'occuper de la délinquance de droit commun. On a vu des épisodes assez impressionnants de voyageurs qui étaient rackettés dans les trains.
Exactement. Les temps ont changé, je vous l'ai dit, Guillaume Roquette. Et là, je ne suis pas mesuré ou réservé. Je vous dis, l'obsession que j'ai aujourd'hui comme responsable de la SNCF, c'est la protection des voyageurs dans les gares et dans les trains.
Vous assumez une forme de tournant sécuritaire de la SNCF ?
Oui. Sécuritaire, le mot souvent paraît connoté négativement. J'assume le fait que la priorité aujourd'hui de la SNCF, c'est la protection des voyageurs et dans les gares et dans les trains. Nous avons 4 millions de personnes qui attendent de la SNCF un engagement plus fort, parce que le monde a changé. Et la France a changé.
Christophe Jacubizine.
Guillaume Pepy, est-ce que vous êtes aussi... est-ce que dans vos salariés, il y a également, comme la RATP, potentiellement des salariés fichiers S? Est-ce que vous êtes informé par la police de ces fichiers S? Et est-ce que vous prenez des mesures à leur encontre?
Oui et oui. Nous n'avons pas les fiches S, car il faudrait être habilité au confidentiel défense. Mais la police nous donne ces informations. Et ces informations sont suivies d'actions. Soit la personne est dans des missions de sécurité. Par exemple, cette personne est dans un poste d'aiguillage, cette personne est conducteur de train. Ouais. À ce moment-là, elle est immédiatement mutée sur d'autres fonctions à l'intérieur
de la police.
Depuis
le 13 novembre
Non, bien avant.
Quel motif légal vous dites à ces personnes-là? Vous leur dites qu'ils sont fichiers S, vous dites rien, vous les mutez discrètement?
Aujourd'hui, on les mute discrètement, je vais être très direct avec vous, et la loi qui est en cours de vote à l'Assemblée va nous donner là-dessus une base légale, et c'est tant mieux.
Vous les mutez, vous ne les licenciez pas? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas le droit de le faire, ou est-ce que parce que vous considérez que ça n'est pas nécessaire et qu'il faut juste éviter de mettre ces gens dans des postes qui pourraient être potentiellement dangereux?
Là, comme citoyen, si toute personne qui serait susceptible d'être en voie de radicalisation était licenciée, je me demande si ça ne serait pas le plus rapide chemin vers la radicalisation définitive. Donc, pas de fonction de sécurité.
Et les fichiers S, ils vous sont transmis au moment de l'embauche? Et à ce moment, il y a un échange d'informations. Et seulement là, s'il y a une radicalisation d'un cheminot alors qu'il est en fonction depuis longtemps, comment est-ce que vous pouvez être...
Pas à l'embauche, à tout moment, lorsque la police ou la gendarmerie a ces informations. Mais il y a une autre chose à la SNCF. Il y a un code de neutralité religieuse qui est extrêmement sévère, qui existe depuis 2005. Et lorsqu'on enfreint ce code, on risque des sanctions disciplinaires. Et donc, il y a, dans tous les chantiers de la SNCF, il y a le regard des autres cheminots qui savent que les manifestations ostentatoires religieuses sont interdites à la SNCF. On est un grand service public neutre et laïque.
Des sanctions ont déjà été prises sur cette base.
Et à propos de sécurité, et on sera tout à fait complet, vous expérimentez d'équiper des caméras de logiciels de détection de comportements anormaux. Vous faites ça, je crois, à deux endroits différents. C'est totalement innovant. On ne sait pas du tout si c'est probant, d'ailleurs. D'abord, vous me le confirmez?
Oui, mais là, on est un petit peu dans le grand avenir.
Dans la science-fiction, là ?
Non, pas la science-fiction, mais dans le grand avenir. Ce qu'on expérimente à plus vaste échelle, je vous l'ai dit, c'est la vidéopatrouille. Parce qu'il faut avoir en tête que 80% des voitures de train et presque 100% des gares moyennes et grosses ont aujourd'hui des caméras de vidéoprotection. Et que par conséquent, ça nous permet en temps réel de regarder s'il n'y a pas une situation anormale ou s'il n'y a pas des comportements individuels bizarres.
Est-ce que tous ces nouveaux équipements vont aussi vous permettre de mieux lutter contre la fraude ?
Oui. Sur la fraude...
Rappelez-nous combien ça vous coûte, la fraude.
Je vais dire les choses franchement. Hein. Les Français en ont marre.
En tout cas, ceux qui payent leurs billets.
Oui, mais c'est 95-98%. Ils en ont marre. Et ce n'est pas une fraude de personnes qui ne pourraient pas payer les billets. Et donc là-dessus, j'ai décidé depuis maintenant 18 mois de prendre les choses en grand. La nouvelle loi va nous aider. La nouvelle loi va permettre, par exemple, que les amendes pour fraude soient recouvrées de façon efficace, tout simplement parce que l'État va être autorisé à nous donner les vraies identités, les vraies adresses des fraudeurs, pour qu'on puisse récupérer le produit des amendes.
Est-ce qu'il faut pour ça rendre obligatoire, par exemple, le fait d'avoir une carte d'identité sur soi quand on voyage dans un train ?
Là encore, la loi, vous voyez, on parlait de tournant. Hein. Il y a un tournant, mais enfin, moi j'assume ce tournant, je vous l'ai dit. Hein. Quand on est fraudeur dans un train, il faudra désormais être capable de justifier de son identité, sinon
oui.
C'est un délit.
Et c'est un délit qui sera donc poursuivi.
Poursuivi de peine d'amende et éventuellement
de
prison.
Et donc vous remettez le contrevenant aux mains de la police dans ces cas-là.
Voilà.
On arrête pour cette première partie. Guillaume Pépi, on va revenir. Vous allez nous parler des innovations en termes d'offres aussi, évidemment, et aussi des questions encore budgétaires et sécurité. Et puis l'accident en Alsace, il faut qu'on y revienne. On se retrouve pour la deuxième partie du grand jury de Guillaume Pépi dans quelques minutes. À tout de suite.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Guillaume Pépi, président du directoire de la SNCF. Le débat est dirigé par Elisabeth Martichoux.
Avec Guillaume Roquette, directeur du Figaro Magazine, et Christophe Jacubizine, chef des services politiques de TF1 et LCI. Vous nous avez fait plusieurs annonces dans la première partie, beaucoup parlé de sécurité. On va poursuivre ce chapitre, Guillaume Pépi, avec l'accident en Alsace, qui a été le plus gros accident de TGV dans son histoire.
Rame d'essai,
14 novembre, au lendemain des attentats. 11 morts, c'est vrai que c'était passé un peu inaperçu, compte tenu des événements de la veille, mais c'est une tragédie, évidemment, pour la SNCF. Est-ce que vous avez d'abord des éléments sur l'enquête ? Pourquoi est-ce qu'il a freiné trop tard, puisque c'est ça le point, en tout cas la raison pour laquelle cette rame d'essai a déraillé ?
C'est, pour nous, et pour tous les cheminots, c'est un drame. C'est le plus gros accident du travail qu'on ait eu à la SNCF dans notre histoire. Et ça a frappé une rame d'essai, pas une rame commerciale, et 11 personnes sont décédées, et parmi les meilleurs d'entre nous, puisque c'était des conducteurs d'essai, des techniciens d'essai, des chefs d'essai. Donc il y a beaucoup d'enquêtes en cours. Moi, je n'ai pas aujourd'hui l'arbre des causes qui permettrait de dire il s'est passé telle ou telle chose. Mais je veux rendre hommage à ces grands professionnels. Sachant que cet accident n'aurait jamais, jamais pu arriver à une rame commerciale, puisque la caractéristique d'une rame d'essai, c'est qu'on débranche les systèmes de sécurité pour aller plus vite.
Pour aller au-delà de la vitesse
de circulation. Pour tester, entre guillemets, d'accord. Pour tester la ligne. Voilà, donc ça ne peut pas arriver dans une rame commerciale. Cela dit, nous avons avec Jacques Rapoport, le président de SNCF Réseau, pris cet accident comme vraiment un accident extraordinairement sérieux, avec des décisions concrètes derrière. Et il y aura un avant et un après dans la façon dont on réalise nos essais.
Quand même, décisions concrètes.
On sait des choses quand même. Il y avait 7 personnes dans la cabine de pilotage. Normalement, le maximum est à 4. Donc on peut, excusez-moi, mais imaginez que si le train n'a pas freiné suffisamment tôt, c'est peut-être qu'il y avait trop de monde dans la cabine.
Alors là, vous allez
peut-être
avoir une conclusion, mais je ne peux pas la partager avec vous. Ce que je sais simplement, et pour aller dans votre sens, c'est que il y avait 7 personnes dans la cabine. Il doit y en avoir au maximum 4. Et j'ai procédé à des suspensions au sein des personnels de la SNCF, d'autant plus difficile que certains de leurs collègues sont morts. Mais la sécurité, c'est un impératif absolu qui exige une rigueur à 100%. Et quand il y a marqué dans une cabine de train « nombre de personnes maximum admises 4 », toute personne qui enfreint cette règle commet une erreur et une faute.
Et les cheminots avaient invité aussi, il y avait des adolescents, il y avait des épouses. Ça, c'était la procédure normale ou est-ce qu'il y a aussi une contravention à la règle ?
Il y a une imprudence, mais on est le samedi. Ces cheminots ont convié leurs adolescents ou leurs conjoints.
Ça se fait habituellement ou c'est anormal ?
Je vais vous dire les choses telles que je les sens. Je peux le comprendre humainement parce que je suis le chef des cheminots, si je puis dire, et en même temps, je ne peux pas l'accepter.
Dans le règlement, il dit quoi ? Il dit qu'on peut amener sa famille ?
Je peux le comprendre, je ne peux pas l'accepter.
Il y a une tradition, si on comprend bien, pour participer à ces grands événements de rame d'essai. Maintenant, vous y avez mis un coup d'arrêt. Donc,
absolument.
Vous avez revu les procédures, c'est désormais interdit.
Absolument.
Sur ce type d'essai, à ce niveau-là d'essai, parce qu'il y a plusieurs gradations. La ligne, du coup, a été... La date d'ouverture au 3 avril a été reportée. À quand ?
Alors, on ferme sans transition ce chapitre pour dire que devant nous, en 2016-2017, il y a de grands événements qui vont profiter à tous les Français. C'est l'ouverture de ces 4 lignes à grande vitesse. Et je préférerais vous dire très concrètement, pour ceux qui nous écoutent, les dates. Donc, le TGV Est, sa prolongation vers Strasbourg, va être ouverte, on le décidera lundi avec Jacques Rapoport, soit en juillet, soit en septembre.
D'accord.
Ensuite, c'est la ligne nouvelle entre Tours et Bordeaux qui sera ouverte, ainsi que la ligne à grande vitesse vers Rennes qui seront ouvertes au début de l'année prochaine, c'est-à-dire avant la mi-2017. Et enfin, avant fin 2017, on ouvrira Nîmes-Montpellier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le TGV, qui est une fierté française, 3 milliards de voyageurs transportés depuis sa création, ça va connaître une nouvelle étape de développement. Et puis la géographie française va un peu changer puisqu'il y a 4 lignes de TGV qui vont ouvrir en même temps.
Il n'y aura pas de fin à cette prolongation des lignes TGV. Là, on a encore appris récemment que le gouvernement avait donné son accord pour que la ligne à grande vitesse soit prolongée au-delà de Bordeaux vers le sud-ouest, malgré des rapports parlementaires et la Cour des comptes qui dit qu'il n'y a pas suffisamment de clients, c'est économiquement déraisonnable. Vous avez dit, comme président de la SNCF, la priorité aujourd'hui, ce sont les lignes de banlieue, ce sont les lignes de proximité, c'est là qu'est le problème. Et pourtant, le TGV continue à se développer. J'imagine que ça capte une grande partie des financements qui, du coup, sont plus utilisables pour autre chose.
Alors là-dessus, les choses sont très claires. Les lignes que nous ouvrons aujourd'hui, elles ont été décidées il y a 7 ou 8 ans. Maintenant, les priorités ont changé. La priorité absolue, c'est le réseau existant et les trains de la vie quotidienne. Je suis président depuis 7 ans. C'est ma priorité. C'est la priorité de SNCF Réseau tous les jours. Et je vous en donne un élément très concret. À partir de cette année, 2016, le grand projet de la SNCF, ça n'est pas un projet de TGV. C'est un projet de train, entre guillemets, de banlieue. C'est le prolongement du RER en région parisienne, de la gare Saint-Lazare vers le Mantois, c'est-à-dire vers l'ouest, la vallée de la Seine, qui va permettre de doubler en région parisienne
le RER. Projet Eole.
C'est le projet
Eole. C'est lancé depuis extrêmement longtemps.
Oui, mais cette fois-ci, on commence les travaux. Et vous savez combien de Français ça concerne ? Ça concerne 620 000 personnes qui, à partir de 2020, vont avoir une deuxième ligne Est-Ouest. Et plus encore, la SNCF, c'est une entreprise technologique, une entreprise d'ingénieurs. On va réussir à faire circuler sur cette nouvelle ligne de RER, et ça sera une première, un train toutes les 180 secondes, c'est-à-dire toutes les minutes et demie.
Contre quoi aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est un peu plus, on est aux alentours de 2 minutes 30, donc on va pouvoir faire plus de trains qui permettront donc d'avoir un meilleur service public et de répondre à la congestion, à la saturation des trains en région parisienne. Le projet principal de la SNCF, pardon de le redire devant vous tous, c'est désormais et enfin un projet de service public qui concerne la vie quotidienne.
Alors, par parenthèse, juste pour revenir sur ce que disait Guillaume Roquette, l'annonce par le gouvernement de son feu vert sur la ligne du Sud-Ouest, est-ce que ça avait un caractère électoraliste en pleine régionale pour soutenir un éventuel candidat
Vous me voyez commenter des décisions de cette nature des gouvernements, que ce soit le gouvernement précédent, le gouvernement actuel. C'est pas mon rôle. Ce que je dis simplement sur cette ligne-là, c'est qu'elle ne va pas peser sur les moyens financiers de la SNCF avant au moins 3 à 5 ans. Et pour aller dans le sens de ce que disait M. Roquette à l'instant, hein, la priorité, c'est des embauches pour mieux entretenir le réseau et le moderniser. En 2016...
En maintenance, on l'appelle.
Oui, en 2016, on va embaucher 2000 cheminots à SNCF Réseau pour faire les travaux de modernisation. Les effectifs de la SNCF Réseau sont en augmentation. Et par exemple, je disais, il y a quelques jours, une décision qui vient d'être prise, la fameuse ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, vous savez, la ligne sur laquelle il y avait le Capitole. Beaucoup de gens nous disent que ça ne marche pas bien, ils ont raison.
La ligne sur laquelle il y a eu l'accident de Brétigny-sur-Orge.
Voilà, 1,5 milliard va être dépensé pour moderniser cette ligne. Ce n'est pas un TGV.
Puisqu'on parlait tout à l'heure des trains de banlieue, des TER aussi, des trains régionaux, et qu'on sort des élections régionales, au fond, personne n'a vraiment très bien compris quelle était la répartition des décisions et des pouvoirs entre les régions et vous. Par exemple, un exemple, en Ile-de-France, nouvelle équipe dirigeante. Or, on apprend que le contrat de plan entre vous et l'Île-de-France a été signé il y a un mois, 12 milliards, c'est pas rien, avec le prédécesseur. C'est pas choquant, démocratiquement et politiquement, que ce soit pas la nouvelle équipe qui s'est engagée sur des choses au niveau des trains de régionaux, que ce soit l'ancienne équipe qui est signée avec vous.
Alors, les grandes régions qui viennent d'être élues, c'est franchement une bonne nouvelle, non seulement pour la SNCF, mais surtout pour les clients. Parce que les grandes régions, c'est la bonne maille pour régler les problèmes de transport. Et dans quelques jours, là, lundi, mardi, mercredi, je vois Christian Estrosi, Valérie Pécresse, Hervé Morin, François Bonneau. C'est dire la place des transports du quotidien dans la volonté des présidents de région. Et par exemple, en Ile-de-France, on va discuter très concrètement de comment on fait arriver très vite des trains neufs pour remplacer certains trains du RER, du RERC et du RERD.
Donc on peut renégocier le contrat que vous avez signé avec Huchon ?
On va l'adapter. Vous savez, il n'y a pas que des trains neufs pour le TGV. Alors, je dis une phrase là-dessus sur les trains neufs, parce que ça intéresse tout le monde. En 2016, il va y avoir des nouveaux TGV. Ces nouveaux TGV, grâce à une décision de Barbara Dalibard, qui est la patronne et qui est dans cette pièce, vont avoir pour la première fois en France des sièges tournants. Autrement dit, pour que tout le monde soit dans le sens de la marche.
Comme au Japon.
Et ça ne s'était jamais fait.
Il y aura l'Internet.
Tous les nouveaux TGV.
Et si, je vous le dis dans une seconde. Et l'autre chose, c'est que la climatisation, qui fait l'objet de beaucoup de reproches des clients parce qu'il y fait trop froid, au lieu d'être le long des vitres, va être par le sol et par le plafond. Comme ça, on ne va plus geler dans le TGV. Et puis enfin, Internet. Internet, nous allons signer dans quelques jours avec le patron d'Orange, avec le patron de SFR, avec le patron de Bouygues Télécom, des accords engageants pour que 90% des trajets en train puissent avoir l'Internet d'ici 2020.
Alors ça, nouveau, 90%. Nouveau ou pas
uniquement nouveau,
pour les nouveaux trains, je veux dire. Dans les TGV ou dans tous les...
90% des trajets en train, voilà. Les TER, les Transiliens, les Intercités, les TGV. Ça nécessite des investissements énormes d'Orange, SFR et Bouygues. Mais cette fois-ci, ils sont décidés à le faire et c'est la première attente de nos clients.
Une dernière question peut-être sur les TER. Est-ce qu'un jour, les régions auront le choix de l'opérateur ? Est-ce qu'ils pourront mettre la SNCF en concurrence ?
Oui, le jour où le Parlement le décidera.
Et donc, c'est-à-dire dans longtemps, probablement, parce que le Parlement ne veut pas une grève illimitée des cheminots.
C'est au Parlement d'en décider.
Donc ça ne se fera pas.
Mais enfin, vous n'avez pas confiance dans votre Parlement ?
Je ne sais pas, mais je vous interroge sur votre point de vue personnel.
C'est une décision du Parlement. Mmh. Moi, j'ai toujours dit que la SNCF ne demandait pas à retarder l'arrivée de la concurrence.
Une question encore sur les régions. Il y a des régions qui accumulent des retards dans les TER, je pense par exemple Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce que c'est de la responsabilité, encore une fois, des nouvelles équipes dirigeantes de vous imposer plus de viabilité sur les horaires ? Ou est-ce que, finalement, à part financer des nouveaux trains, des nouveaux TER, les régions n'ont pas vraiment de pouvoir en la matière ?
Vous savez, les retards, chaque jour, ça nous fait mal, hein. Ça nous fait mal à nous, ça fait mal aux 150 000 cheminots, parce que notre métier,
c'est aux usagers
la
aussi.
Sécurité et d'être à l'heure. Oui, ça nous fait mal, mais ça nous fait mal pour nos clients. Croyez pas qu'on s'habitue, quand ça arrive la nuit et qu'il y a un train qui est retardé de plus de 3 heures ou 4 heures, et ben on est réveillé parce qu'il y a un train qui a plus de 3 heures ou 4 heures. Mais la bonne réponse, c'est pas seulement de nous taper dessus. La bonne réponse, c'est d'investir pour moderniser le réseau. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Cette année, 2016, notre pays va investir 2,7 milliards. Alors le chiffre comme ça, dit à la radio ou à la télévision, ça paraît un peu irréel. Mais 2,7 milliards, ça veut dire 1500 chantiers.
C'est toujours une question d'argent, c'est jamais une question
pour améliorer
de,
les voies. Et donc, plus
de réalisation du temps de travail,
plus
par exemple.
De régularité.
C'est toujours une question de dépenser plus. C'est pas une question de peut-être revoir comment. On sait qu'à chaque période, tous les six mois de changement d'horaire, il y a des grèves des cheminots parce que ça correspond. Voilà, ça crée des mécontentements. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui permet d'améliorer la ponctualité, par exemple, des trains, leur disponibilité, plus que de donner, mettre encore plus d'argent pour améliorer le réseau?
Alors, sur ce sujet, je veux être très clair. La stratégie que je conduis à la SNCF, c'est de faire baisser les coûts pour faire baisser les prix. Il n'y en a pas deux stratégies. C'est ma stratégie, c'est celle que je conduis et j'irai jusqu'au bout de cette stratégie. Faire baisser les coûts, c'est remettre à plat l'organisation du travail, c'est faire de la productivité, même si on embauche massivement. Cette année, je le redis, le groupe SNCF, il va embaucher 10 000 personnes. On va être dans le top 3 des entreprises françaises qui embauchent.
Vous
10
êtes,
000 personnes.
Vous êtes un gros recruteur.
On est un très
le
gros
solde,
recruteur.
C'est 1 400, vous l'avez dit.
Mais on remet à plat les organisations du travail.
Le solde entre embauche et départ, c'est 1 400. Ça a été dit cette semaine. Donc, il y a des postes, des diminutions de postes.
Il y a de la productivité, sans licenciement, sans plan social. Je vous donne un exemple. L'Internet. Beaucoup de nos clients achètent, réservent, échangent par Internet. On a besoin de moins de vendeurs. Il restera des vendeurs à la SNCF, mais des départs à la retraite de vendeurs et de vendeuses ne sont pas remplacés. Mmh. Même chose dans les postes d'aiguillage. Un poste d'aiguillage, on l'informatise pour faire passer plus de trains.
Oui,
et
ben,
dans ces conditions-là,
sur le...
on ne remplace pas les personnes qui partent à la retraite. Mais il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Vous vous rendez compte d'une entreprise publique qui embauche cette année 10 000 personnes. Et je le rappelle, à la SNCF, on embauche en CDI.
Vous les embauchez tous avec le statut de cheminot. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des recrutements avec des postes un peu plus souples, peut-être un tout petit peu moins d'avantages sociaux qui coûtent tellement cher à la collectivité?
C'est exactement ce qu'on fait. Il y a une partie des cheminots qui sont embauchés au statut des cheminots. C'est la loi. Quand on a moins de 30 ans. Et quand on a plus de 30 ans, et on a environ 30% des embauches qui arrivent avec des personnes de plus de 30 ans, à ce moment-là, on embauche au Code du travail en CDI.
Donc un tiers des recrutements sont hors statut cheminot.
Oui, c'est l'ordre de grandeur.
D'accord.
Il y a une grosse négociation qui va s'engager sur l'organisation du temps de travail, vous l'avez évoqué il y a quelques instants. Ça doit être bouclé en juin, il se trouve que vous êtes partenaire aussi, Guillaume Pépi, de l'Euro... de l'euro de l'année prochaine. Tout ça pour arriver à la crainte qu'on peut avoir, légitimement, c'est celle d'une grève à cette occasion, puisque ça va être très sensible comme négociation. Vous allez toucher à quoi en termes d'organisation du temps de travail?
Vous savez, je pense qu'aujourd'hui, la SNCF, elle doit se réinventer. Se réinventer, ça veut dire...
Dans son fonctionnement interne.
Ça veut dire faire tomber un certain nombre de tabous. Et parmi ces tabous, il y a le fait que l'organisation du travail serait figée, qu'on ne pourrait pas réformer la SNCF. Eh bien, cette année, 2016, on a quatre grosses négociations à mener. Et moi, je ne les mène pas dans l'esprit où on va se taper dessus. Je les mène dans l'état d'esprit où tout le monde, y compris les syndicats de cheminots, ont intérêt à ce que la SNCF réussisse. Parce que devant nous, si on réussit à moderniser la SNCF, on est sur un secteur en croissance. On est une entreprise française qui exporte. 30% de notre production est exportée. Et la SNCF, elle est sur le podium des 3 ou 4 entreprises mondiales du transport public. Et tout ça, eh bien, ça vaut bien qu'on se réinvente. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On se réinvente
avec
tous les jours.
Avec quel type de proposition sur l'organisation du temps de travail?
Oui,
quel type de proposition?
La façon de faire les 35 heures. Nous avons à renégocier à la SNCF la façon de faire les 35 heures pour que nos 35 heures à nous soit plus efficace et plus efficace dans l'intérêt des clients, c'est-à-dire d'avoir des trains plus à l'heure, des trains plus fiables et des trains moins chers. Je le redis, il n'y a pas d'autre stratégie possible que de faire baisser les coûts, pas que les coûts du travail, tous les coûts, pour que le train soit moins cher.
Mais ça,
c'est l'exigence
syndicat
de nos clients.
Alors justement là-dessus, il y a eu un rapport, alors c'est assez compliqué, mais de l'UTP, qui est le syndicat professionnel des transports, et si on a bien compris ce qu'il y a dans ce rapport, il compare les conditions de travail et d'activité dans le fret, parce que le fret c'est un secteur ouvert à la concurrence, et ce rapport dit, les cheminots de la SNCF ont en moyenne 22 jours de RTT en plus par rapport au privé, des jours de congés supplémentaires, et tout ça amène à ce que un salarié en sous statut privé dans le ferroviaire serait 30% plus efficace
dans le fret, vous avez
dans le fret qu'un salarié de la SNCF. Est-ce que c'est vrai? Et si c'est oui, combien de temps est-ce que la collectivité, les contribuables peuvent payer ce surcoût?
Alors, des rapports, il y en a beaucoup. Celui-là, je ne l'ai pas lu en détail, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un écart. Et c'est justement ce pourquoi nous allons, en 2016, remettre les choses.
C'est quoi l'écart de productivité selon vous entre un salarié et la SNCF?
On va les remettre à plat. Les remettre à plat, encore une fois, c'est une négociation qui n'a jamais eu lieu à la SNCF. C'est une négociation sérieuse. Moi, je crois au dialogue social, mais le dialogue social, ça se fait aussi par le respect. Et donc, moi, je ne lance pas d'anathème en donnant des chiffres, en mettant des ultimatums. Mon programme pour l'année 2016, c'est d'avoir cette négociation-là, une négociation responsable, parce que si on ne réussissait pas, ça voudrait dire qu'au moment où la concurrence va arriver, y compris pour les trains de voyageurs, la SNCF serait perdante, c'est-à-dire qu'elle perdrait des parts de marché, et donc on revient au sujet de l'emploi, on perdrait des postes. Or, moi, ce que je veux, c'est conduire un projet de développement pour la SNCF, parce qu'il y a un avenir pour le train. Je dis une phrase sur la COP21. On n'en a pas parlé, mais juste une phrase. La COP21, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ça a renforcé l'obligation dans tous les pays du monde de faire moins de voitures et plus de transports collectifs. Le train, c'est 8 grammes de CO2 aux voyageurs kilomètres. Record imbattu. Maintenant, il y a un regret sur la COP21, je veux le dire aussi. Jusqu'au dernier moment, on espérait qu'il y aurait un prix de la tonne de carbone élevé.
Ouais,
et malheureusement, ça ne s'est pas fait.
Benoît Galeret nous rejoint, Guillaume Pépi. Il a regardé les réseaux sociaux depuis que vous êtes notre invité. Guillaume, rebonjour. Et alors, quelles sont les questions de nos auditeurs?
Énormément de réactions, déjà. J'ai rarement eu autant de tweets. On a peur d'arriver en retard à son réveillon, cette année particulièrement, avec les conditions de sécurité, bien sûr. Par rapport à cela, vous annoncez l'achat de machines renifleuses de colis suspects. Maxime vous le dit un peu rigolant, mais on n'appelle pas ça un chien. Plus sérieusement, Sam vous dit, pourquoi chercher des solutions compliquées à des problèmes simples? Pourquoi pas créer une brigade canine?
Ben c'est une très bonne remarque. Oui, il a tout à fait raison, Maxime. Oui, il y a aussi des brigades canines, c'est tout à fait vrai. Nous avons des chiens à la SNCF, des chiens cheminots.
L'un n'empêche pas l'autre.
Donc ils peuvent travailler ensemble.
Ils sont sous statut aussi, les chiens?
Non, je vous vois venir, monsieur Roquette.
Les prix aussi inquiètent beaucoup. Pas d'augmentation prévue des tarifs de la SNCF, dites-vous, mais pas encore de décision prise. Résume Philippe, on craint la création d'une taxe de sûreté. Pour l'œil rouge, ça serait logique, puisque ça existe dans les aéroports. Pourquoi mentir? On va y avoir droit. Pour Laurent, au contraire, ça serait inadmissible parce que le train est déjà bien assez cher à ce sujet. Damien vous demande, est-ce que ça ne vous choque pas l'écart de prix entre train et covoiturage? Pour moi, d'ailleurs, c'est terminé, le train, nous dit-il.
Oui. Nous aussi, on fait du covoiturage parce que il y a beaucoup de gens qui, en France, cherchent avant tout du tout petit prix et pas forcément de la vitesse. On en a pris conscience depuis plusieurs années. Donc, la SNCF fait du covoiturage, elle fait de l'autopartage avec WeCar, elle fait du bus avec WeBus, elle cherche, la SNCF, à apporter une réponse à chaque personne qui veut se déplacer selon ses moyens. Mais au passage, on n'a pas beaucoup parlé du digital. Les plateformes digitales, ça nous aide beaucoup à transformer la SNCF. La SNCF, on en a parlé au début, c'est une entreprise qui aujourd'hui veut protéger ses clients, mais c'est une entreprise populaire, qui veut être ouverte à tous, et c'est une entreprise technologique. On est des ingénieurs dans l'âme et on va continuer à développer le digital.
Mais parfois, même avec votre site, certains disent avoir du mal à se repérer parmi les prix. Vous annoncez de nouveaux petits prix. Daniel nous dit, mais c'est au moment où personne prend le train, aux heures scolaires, par exemple. Plutôt que multiplier ces offres à petits prix, à quand un tarif unique dit chercher sur un Paris-Marseille, par exemple, qu'on s'y retrouve dans cette foultitude de tarifs?
Ben là, je vais lui répondre aussi carrément que la question est posée. S'il y avait un tarif unique, ça s'appelait le tarif au kilomètre. C'était 30% plus cher que les tarifs d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'en ayant aujourd'hui des tarifs différenciés, on remplit beaucoup mieux les trains. Et les trains, les TGV français, ils sont remplis à 80%, ce qui permet qu'ils soient moins chers. Si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, ils sont remplis à 50% et le train en Allemagne est beaucoup plus cher.
Encore une question ?
Une dernière, c'était sur le Wi-Fi, mais vous avez répondu, puisque tous ceux donc, qui étaient dans des trains ont été punis de questions et ne pouvaient pas tweeter.
Ce sera pour la prochaine émission, hein, dans un train où on aura une clim bien dosée et on pourra se retourner. Ça, c'est pour les TGV du futur. Deux questions qui arrivent cette année. Deux questions pour terminer. D'abord, est-ce que vous sentez la reprise économique ?
Pas forte, hein. On a fait un objectif cette année de croissance à 1,8%, mais il faudra voir si l'impact des attentats est durable ou pas.
Il y a moins de gens qui prennent le train que prévu là, en cette fin d'année, par exemple, ou pas ?
C'est remonté après la période des attentats. Et je vous dis, pour l'année prochaine, on prévoit une augmentation de fréquentation, mais encore, encore une fois... Prudence.
Est-ce que l'accident de train de l'Est, du TGV, 11 morts, vous a fragilisé ? C'est vrai qu'il est passé inaperçu. Pour dire les choses clairement, il n'y aurait pas eu le 13 novembre, l'affaire aurait fait un scandale. Peut-être auriez-vous à ce moment-là été mis sur la sellette. Est-ce que vous vous êtes senti quand même fragilisé par votre tutelle ?
Je me suis senti fragilisé en moi. Parce qu'un accident d'une rame d'essai, c'est un choc considérable. Moi, je suis dans l'entreprise depuis 23 ans. Quand on est arrivé sur les lieux avec Jacques Rapoport, le choc est immense pour toute l'entreprise. C'est un traumatisme pour toute l'entreprise, c'est un accident du travail. Maintenant, le rôle des patrons, ce n'est pas de fuir le champ de bataille, hein, c'est de prendre les mesures qu'il faut prendre, et c'est notre devoir. Et moi, je suis fier d'être dans cette entreprise. C'est une entreprise extraordinaire, sans doute la plus belle de France. En tout cas, moi, j'aime cette entreprise. Et c'est un moment incroyable à la SNCF en ce moment, parce que tout est en train de changer. Et notre responsabilité, c'est de relever ces changements-là pour que la SNCF demain soit l'entreprise, une des entreprises les plus populaires de France.
Vous restez dans la cabine de pilotage de la SNCF. Bonne année 2016. Guillaume Pépi, merci d'avoir été notre invité. C'était le dernier grand jury RTL Le Figaro LCI de cette année. On se retrouve bien sûr à la rentrée avec bientôt une chaîne d'LCI qui montera en clair courant janvier. Et on vous retrouvera bien sûr avec beaucoup de plaisir. Merci Guillaume Roquette du Figaro. Merci Christophe Jacubizine. Merci à vous. À l'année prochaine. Au revoir. On se retrouve le 3 janvier.